Bonjour, je suis Alexandrine Douai. Vous écoutez Alouette Mag, un podcast réalisé par la rédaction d'Alouette.
J'ai mis des paillettes dans la vie des gens apparemment, ça fait plaisir.
Il s'appelle Kevin Plessis. Et lui, c'est sûr, il va mettre des paillettes dans votre vie.
Quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ?
J'ai rencontré il y a quelques jours ce Nantais de 28 ans, passionné de nature et de sport. Il vient tout juste de rentrer chez lui après avoir bouclé un périple hors norme. Kevin a en effet traversé l'Europe à pied, de la Norvège au sud de l'Espagne, 6000 km parcourus pendant 6 mois, 10 pays traversés, avec sur le dos une quarantaine de kilos de matériel. Le défi était sportif mais aussi écologique. Tout au long de son expédition, il s'est engagé à ramasser les déchets trop nombreux jetés le long des routes ou dans les fossés. Une expérience qu'il a souhaité faire vivre via les réseaux sociaux. Kevin avait tenu à embarquer avec lui son smartphone ainsi qu'un chargeur fonctionnant à l'énergie solaire. Attablé à la terrasse d'un café, il est revenu en toute modestie sur son exploit tout en dégustant un expresso, un petit geste du quotidien qu'il avait presque oublié ces derniers mois.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
Bonjour Kevin.
Bonjour.
Kevin, tu nous as mis des paillettes dans notre vie. Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit quand vous êtes arrivé dans le sud de l'Espagne à Tarifa, oui, le 27 septembre dernier?
Oui, j'ai eu des retours avec le prénom forcément. J'ai mis des paillettes dans la vie des gens apparemment, ça fait plaisir.
Vous nous en avez mis plein les yeux en diffusant des images, des vidéos sur votre compte Facebook très régulièrement tout au long de votre expédition.
Oui, c'était important de poster tous les jours pour partager ma cause écologique pour l'environnement, pour les gens. Et les publications, c'est ce qui ramène des gens puisque les gens partagent. C'est avec eux que je travaille finalement pour mon expédition, donc c'est important.
Depuis le 5 avril dernier, depuis votre départ de Norvège jusqu'à votre arrivée fin septembre, 10 pays traversés, 6000 km parcourus à pied, forcément, ça nécessite une grosse préparation physique et mentale également.
Oui, alors le mental, il a toujours été là, c'est pour ça que je fais ça aussi. Mais beaucoup de temps pour préparer mon expédition, sachant que je suis tout seul. J'étais tout seul pour préparer mon aventure. Donc c'est beaucoup de matériel, savoir ce qu'on emmène, etc. Et surtout que c'est une traversée avec des climats différents, donc on doit adapter son matériel. Si on prend de l'équipement trop froid au début, il va falloir qu'on le change pour arriver dans les pays chauds. Donc j'ai essayé d'avoir un équipement mitigé, plutôt tempéré, on va dire, donc pour utiliser l'équipement sur toute la longueur du périple.
Vous êtes originaire de Saint-Julien-de-Concelles, mais vous vous êtes préparé dans les Alpes.
Oui, je suis complètement parti de Nantes pour m'entraîner dans les montagnes et dans un environnement qui me plaît. Donc voilà, j'ai décidé d'aller là-bas pour m'entraîner, pour préparer mon aventure tout seul. Je ne connaissais personne. Voilà, pour être tranquille et puis partir plus serein.
Est-ce que vous avez fait appel à un coach mental ?
Non, pas du tout. Je travaille mon mental avec ce que je fais tous les jours. C'est un entraînement quotidien, donc je recherche toujours à me dépasser. Et d'être plus positif aussi, ça m'aide à... Pas forcément, quand on a un bon mental, ça ne veut pas dire qu'on est un dur ou quoi que ce soit. Ça se passe dans la tête. Si on n'a que des pensées positives, on va affronter les problèmes beaucoup plus facilement. Donc c'est avec ça aussi que je travaille.
Donc ça veut dire que vous êtes un sportif dans l'âme depuis des années?
Oui. J'adore la compétition, mais uniquement pour me dépasser, pour me découvrir tout simplement.
À quel moment est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette expédition ? Vous avez réalisé une expédition il y a quelques années, le Tour de Bretagne. Là, on passe encore à un cran au-dessus. À quel moment il y a eu ce déclic ?
C'est pendant ma première aventure. J'avais besoin de me défier, de me pousser à l'extrême. Je suis même parti faire ce Tour de Bretagne il y a maintenant 2 ans. Et je suis parti avec cette idée que je pouvais vraiment abandonner, que je partais dans l'inconnu. Voilà, j'ai fait ce Tour de Bretagne sur 2200 km, donc j'ai fait des traversées à la nage, j'ai marché sur les rochers, j'ai fait de l'escalade. Je me suis vraiment offert une aventure un peu extrême, savoir si je pouvais aller au bout. Et je me donnais même le droit d'abandonner, je fais si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Je suis parti pour me découvrir. Et en même temps, je ramassais déjà un déchet par jour sur ce périple. Et quand je suis arrivé au bout, c'est là que j'ai réalisé que waouh, ça m'a fait changer déjà, je n'étais plus le même. Et c'est là que je me suis dit, j'ai encore envie de marcher, j'ai encore envie de faire plus. Et donc voilà pourquoi la traversée de l'Europe avec les déchets.
Avec effectivement toujours ce message écologique derrière.
Oui, les déchets, c'était vraiment important. J'aime beaucoup la nature, je suis un amoureux de la planète, de l'environnement, donc forcément quand on se balade, quand on veut faire découvrir des choses et qu'il y a des déchets avec, ça casse un peu le moral et voilà, j'avais envie de ramasser. Parce que oui, ça rajoute une touche de démotivation malheureusement, il y a beaucoup de gens à qui ça déplaise, on se balade, ils trouvent des choses, ils sont ça dégoûte. Donc j'ai envie de leur montrer qu'on peut agir tous les jours. Voilà, moi je me levais, je savais que chaque matin je devais encore ramasser des déchets et encore. Et voilà, j'ai trouvé ma motivation comme ça. J'ai un peu inversé la tendance. Moi, ça me motivait. Plus je voyais des déchets et plus je pouvais avancer, plus ça me motivait à les ramasser, à montrer aux gens surtout que c'est possible de faire quelque chose.
Alors pourquoi cette traversée de l'Europe ? Passer de la Norvège à l'Espagne, avec des températures très très différentes, des environnements très différents.
Alors c'est exactement pour ça. J'ai choisi le sens nord-sud, parce qu'il y a beaucoup plus de climat, ils sont plus rudes, c'est plus sauvage, il y a moins de villes aussi. Et donc ça permettait aussi pendant l'aventure de partager des choses complètement différentes au niveau des paysages, de l'environnement. Et c'est vrai que même moi, je m'en suis nourri, ça fait plaisir de marcher dans des endroits. Voilà, j'ai marché dans la neige vierge en Norvège, en Finlande. C'était incroyable, c'était magnifique. Et ce sens-là, nord-sud, il n'a jamais été fait à pied, en solitaire et en autonomie. Donc ouais, j'avais hâte de relever ce défi quand même pour voir si je pouvais le faire. Ouais.
Ça veut dire qu'il y a des endroits où vous n'avez croisé aucun être humain, quelques animaux tout au plus ?
Oui, alors surtout au tout début, en Norvège je croisais des motoneiges, des dameuses, mais c'était vraiment personne dehors en fait finalement, tout le monde était dans son véhicule et je marchais seul. Et puis je suis arrivé en Finlande, c'était encore pire, j'ai traversé la région Lapland, donc la Laponie, et là j'ai passé 2 semaines sans contact humain, donc j'étais en pleine forêt, j'ai ramassé que 37 déchets sur 387 km, donc c'est très très peu.
C'est drôle que vous dites ça, que 37 déchets, mais on aurait peut-être envie de dire 37 déchets de trop.
Oui, 37 déchets de trop, mais que 37 quand même, mais parce que malheureusement c'est le pays où j'en ai ramassé le moins. Oui, d'un côté, heureusement, merci beaucoup pour cette région un peu plus propre que les autres, mais le résultat est là, il y avait très peu de contacts humains, très peu de... Voilà, j'en ai eu aucun, donc forcément, les résultats sont là aussi, hein, le bilan, c'est que moins il y a d'humains dans certains coins, moins il y a de déchets, quoi.
Vous aviez donc un lourd matériel avec ce chariot que vous avez transporté tout au long des 6000 km.
Mon équipement au total faisait 44 kilos, j'avais 10 kilos sur le dos et 34 kilos pour le chariot. Donc c'est mon chariot cuisine que j'appelais, donc il avait tout, mon eau, ma nourriture, et puis je rajoutais quelque chose pour m'alléger le sac à dos, mais c'est vrai que ouais, j'avais pas mal de kilos au début. Ouais.
Donc se débarrasser aussi au fur et à mesure des déchets peut-être, avec la mise en place de contacts avec les associations locales, ou peut-être que certains pays sont mieux organisés.
Oui, la Scandinavie c'était très facile de ramasser, il y avait beaucoup moins de déchets que dans les autres pays. Puis j'avais mon chariot, c'était plus simple de les transporter, il y avait un filet qui était tendu sur mon chariot que je pouvais ramasser, j'avais une pince à déchets aussi. Et dans ces pays-là, en Scandinavie, beaucoup de zones de tri en dehors et dans les villes, donc c'est très facile de s'arrêter, de vider son filet et puis de repartir et de le refaire plusieurs fois dans la journée. Donc voilà, j'étais très à l'aise dans ce que je faisais au début, puis arrivé en France, ça a commencé vraiment à me surpasser, même en Belgique, aux Pays-Bas aussi. Mais en France, c'était vraiment, je suis passé à plus de 30 kilos de déchets et j'ai atteint facilement les 4000 déchets à la fin de la traversée de la France.
C'est-à-dire que plus vous alliez vers le sud et plus vous avez découvert de déchets.
Voilà, c'était vraiment du nord au sud, c'est crescendo. Hein. Dès que je suis passé en France, j'en ai ramassé beaucoup, beaucoup, plus de 2000, énormément de mégots. Contrairement à l'Espagne où je suis passé bien à 2500-3000 déchets en plus et puis une trentaine de kilos. Mais eux, ils sont champions en bouteilles plastiques et nous en mégots. Donc, ouais. Mais ils en ont beaucoup plus que nous. Il y a un problème vraiment en Espagne au niveau des déchets. Je me suis même baigné dans la Méditerranée et je suis sorti aussitôt puisqu'il y avait des cotons-tiges et du plastique qui flottaient à côté de moi. Donc voilà, c'est vraiment sale.
C'est ce qu'on a pu voir hein, pour tous les gens qui vous ont suivi sur Facebook. On a vu toutes ces images de déchets, en particulier malheureusement en Espagne.
Oui, beaucoup de dépôts d'ordures en fait. Et puis il y en a beaucoup dans les zones un peu plus sauvages, donc vraiment en dehors des villes. L'Espagne c'est vraiment un drôle de pays. On rentre dans des villes, elles sont propres, parce que les gens nettoient devant chez eux par contre. Mais dès qu'on sort, il y a un contraste, il y a beaucoup de déchets tout le long des routes. Vraiment, ça fait partie du décor quoi.
Thank you. retour précisément à votre expédition. Comment vous vous organisiez au quotidien? Combien de temps est-ce que vous passiez à marcher? Et où dormiez-vous aussi?
Alors, je marchais entre 10 et 14 heures par jour. Ça représente en moyenne 40 km par jour. Et je me levais avec le soleil, je le laissais se lever pour qu'il me réveille, tout simplement. Donc souvent, j'essayais de camper vers l'est pour avoir le soleil le matin. Et je m'arrêtais au coucher du soleil, même parfois j'ai marché en pleine nuit, donc ça ne me dérangeait pas. Et souvent, je campais oui, dans des endroits sauvages, dans la forêt, dans les champs. J'ai jamais eu de problème, parce que ça devenait naturel. Je savais où fallait aller, où ne fallait pas aller. Voilà.
Voilà, il n'y a pas forcément eu de remarques d'agriculteurs qui disaient non, ne dormez pas ici.
Non, aucun. À aucun moment, je veux être à l'aise en fait quand je dors et quand je choisis un endroit, je ne veux que personne ne sache où je suis. Et j'ai eu beaucoup plus de visites d'animaux que d'humains.
Alors côté hygiène, évidemment, c'est une question qu'on se pose tous quand on part dans une telle expédition. Comment est-ce qu'on s'organise pour la toilette? Pour aller aux toilettes, évidemment, ça doit être assez sommaire.
Oui, c'est assez rudimentaire. Hein. On prend ce qu'il y a sur le chemin. Hein. Moi, je n'emmène qu'un savon, un savon solide. Donc, c'est vraiment au cas où. Et dès qu'il y a un peu d'eau, quoi que ce soit, bon, c'est des toilettes de chat. Hein. On se les passe sous les bras, sur le visage, et puis voilà, terminé. Hein. Mais c'est une lutte de rester propre. Il faut s'accepter. Le corps, on ne sent pas, en fait. On s'accepte soi-même. Et au bout d'un moment, ça ne nous dérange plus. Donc, voilà.
La nourriture, il faut bien sûr s'alimenter au quotidien. Comment ça s'est passé?
Alors, dans mon chariot, je l'ai gardé pendant 4 mois, pendant 4000 km. Il transportait ma nourriture, donc j'avais des sachets lyophilisés, des fruits secs. Et je me suis rationné dès le début pour pouvoir repousser cette nourriture au maximum. Puisqu'une fois que le chariot vide, je devais le rendre à ma famille, du coup. Et j'ai continué avec un sac à dos après. Donc j'ai passé 2 mois vraiment sans transporter de nourriture. Mais quand même, j'ai eu de la chance sur mon chemin. Des gens, ils m'ont reconnu, ils m'ont offert de la nourriture à boire. J'ai eu le gîte, le couvert. Donc ça m'a beaucoup aidé. Puis l'Espagne, je me suis vraiment retrouvé tout seul. Et c'est là que j'ai dû manger beaucoup de fruits sur mon chemin, dans les champs, sur mon passage. Voilà, je prenais toutes les occasions pour manger.
Est-ce que vous avez été tenté de chasser?
Alors j'avais des notions de chasse. Mais je les aurais appliquées uniquement si j'étais en danger pour ma vie. Si j'étais blessé ou quoi que ce soit, je devais rester sur place. Là, j'aurais appliqué ces méthodes. Donc le but, c'était de ne pas chasser, de ne pas faire de feu, de ne pas pêcher. Parce que je veux respecter aussi l'environnement. Je veux laisser le moindre impact derrière moi. Et voilà, avancer aussi discrètement que possible.
En changeant cette alimentation, en ne mangeant que le strict minimum ou ce que vous trouviez au fur et à mesure de votre chemin, le corps, comment a-t-il réagi? Est-ce que vous auriez pu tomber malade, avoir des soucis de santé?
Alors au début non, parce que c'est de la nourriture quand même dans des sachets, donc il y a tous les nutriments indispensables. Maintenant c'était que 1000 à 1500 calories, moi il m'aurait fallu le double. J'ai fait des carences bien sûr. En magnésium à certains moments de l'aventure. Mais ça va, je m'en suis sorti. J'ai pas eu de problème de santé important.
Pas de sorte d'hallucination aussi, peut-être avec un manque de sommeil, manque de nourriture?
Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout en Espagne avec le soleil. Puis souvent, je dormais mal. Donc alors là, c'est des journées où on tourne un petit peu la tête et puis on perd l'équilibre tout simplement. Donc c'était pas évident. Et il y a eu beaucoup de journées comme ça en Espagne puisqu'il y avait toute la fatigue derrière, les 5000 et quelques kilomètres que j'avais fait. Mon corps avait beaucoup changé, mon estomac avait rétréci. J'étais parti aussi avec beaucoup de graisse au début, que j'ai perdu dans le froid à force de marcher, puisqu'on consomme beaucoup plus de graisse avec le froid. Et c'est vrai que j'ai perdu, je pense, presque 10 kilos au total.
Oui, et puis pas forcément 10 kilos de graisse, c'est-à-dire de muscles également.
Oui, aussi beaucoup de muscles, je l'ai senti surtout. Moi, je ne suis pas quelqu'un de maigre déjà à la base, et j'ai senti vraiment que j'avais perdu... une bonne quantité de masse musculaire. J'avais plus de force dans les bras, juste des fois quand je soulevais mon sac à dos, quand je faisais un effort, je passais un obstacle, j'étais épuisé juste après. Ouais, c'est quelque chose qui fait bizarre.
Est-ce que justement il y a eu parfois, on imagine, hein, quelques moments de doute?
Alors oui, puisque je me suis blessé assez souvent, pourtant je minimisais les risques. Mais c'est vrai que sur 6 mois, on peut pas avoir une route tranquille, c'est pas le tapis rouge, donc... Il y a des obstacles à passer, on va dans les cours d'eau, j'avais le chariot, il fallait faire passer à des endroits pour qu'ils puissent rouler. Voilà, je suis passé dans des forêts, c'était pas évident, je me suis blessé au genou, j'ai eu les pieds écorchés jusqu'à la chair. Donc il y a eu des journées où je me suis dit, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que ça va être possible? Et puis tout. Et je me répondais, oui, tu vas marcher comme ça. Si tu dois boiter pendant 6000 km, tu vas boiter, mais tu vas le faire. Donc à aucun moment, je me suis dit, je vais abandonner. Alors, parce que là, si on pense comme ça, ensuite, on peut justement abandonner. Alors que tout se passe dans la tête. Si je me dis que je peux le faire, je vais avancer. Je me disais toujours, demain est un autre jour, le tout, c'est d'avancer. Et ça m'a aidé. Les pensées positives, c'est une force et je m'en suis servi.
C'est ça, c'est ce qui vous a fait tenir, cette pensée positive. Est-ce que les petits messages aussi de vos proches ou des gens qui vous mettaient des commentaires sur votre page Facebook, est-ce que tout ça aussi, ça a permis de vous dire, il faut que je tienne jusqu'au bout?
Oui, alors les réseaux sociaux, c'est vraiment un compte-rendu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que toute ma journée, ce à quoi je pensais, je le mettais à l'écrit. Donc en résumé, hein, et ça m'aidait aussi à partager ce que j'avais dans la tête. Des fois, j'avais des réflexions, beaucoup de pensées positives, puisque c'était ce qui me faisait vraiment avancer tous les jours. Et c'est comme ça que je construis mon mental. Je suis pas quelqu'un de dur, de forcé, forcené ou quoi que ce soit, mais la pensée positive, c'est très important et j'ai vraiment eu de belles leçons là-dessus.
Et de faire un compte-rendu presque au quotidien, ça a permis aussi de garder un petit lien avec le monde civilisé, si je peux dire ça comme ça.
Oui, oui et non quand même. On s'aperçoit que souvent, c'est une tâche qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais c'est important vraiment pour la partie écologique, pour que les gens puissent partager, en parler autour d'eux. Et c'est vrai que tous les jours, de lire les commentaires, ça fait aussi plaisir. Ça nous repousse à refaire la même chose le lendemain. Donc oui, ça apporte quand même son importance.
Vous disiez, en Espagne, ça devenait compliqué parce qu'il y avait la fatigue. Et puis, il y a eu ce violent orage peu de temps avant votre arrivée. Comment est-ce que vous l'avez vécu?
Oui, c'était vraiment un des plus violents orages qu'ils ont eu depuis un bon siècle. Pour certaines villes, il y a même eu des morts, malheureusement. Beaucoup de blessés et je suis passé vraiment, j'étais en plein dedans donc je pouvais pas l'esquiver. Enfin, l'esquiver, je pouvais si je continuais de marcher finalement. Donc je me suis dit, je vais marcher, je vais dépasser l'orage. Donc oui, je l'ai traversé, j'étais déjà à 1000 mètres d'altitude dans les parcs nationaux et c'était compliqué. Il y avait beaucoup d'inondations, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, juste sur des routes plates, des coulées de boue qui sont passées et puis le lendemain, c'était pareil, quand l'orage s'est fini, au bout de 3 jours. Voilà, j'ai payé un peu les catastrophes, c'est-à-dire que j'ai marché sur des chemins qui n'existaient même plus en fait. Il y avait la route, mais il y avait toute la boue qui était dessus, c'était inondé, des rivières traversaient le chemin, donc c'était beaucoup d'obstacles. Je marchais avec de l'eau jusqu'aux genoux, et puis j'ai vu des éclairs tomber à 300 mètres de moi, donc c'était très impressionnant, j'ai eu peur pour ma vie même. Et voilà, je me sens miraculé quand même d'en être sorti de cet orage.
Oui, à ce moment-là, vous ne vous êtes pas dit, allez, c'est bon, j'arrête, venez me chercher.
Pas de ce point de vue-là, mais quand même, quand j'avais eu ma dose d'adrénaline, quoi. Je me suis dit à ce moment-là, je comprends pourquoi personne traverse l'Europe.
Ça a été le moment le plus compliqué durant votre expédition?
Oui, ça a été le plus dur, oui, parce que c'était vraiment constant. L'orage est tombé 3-4 jours sans arrêt, finalement, hein, même la nuit. Et j'étais trempé pendant 3-4 jours. Ensuite, j'avais aussi des problèmes aux pieds, j'arrivais pas à me soigner avec l'humidité, c'était vraiment infaisable. Il fallait que je me sèche, il fallait que je trouve quelque chose et le seul moyen c'était d'avancer comme ça. Donc souvent j'ai été inondé en pleine nuit, je dormais très mal, tout était trempé, je vivais dans la boue pendant 3-4 jours, donc c'était compliqué. Ouais.
Il y a donc cet exploit sportif et ce message écologique que vous avez souhaité faire passer. Plus de 6000 déchets récoltés, ça représente à peu près 120 kilos. Vous vous attendiez à plus, moins, autant que ça?
Je m'attendais à beaucoup plus que ça parce que je suis aussi influencé par ce que j'ai vu et que j'ai pas pu ramasser forcément. Je ramassais tout ce qu'il y avait sur mon chemin, mais j'allais pas à la pêche aux déchets. J'en ai vu beaucoup un peu plus loin dans les champs avec le vent, ça s'envole partout. Les pluies qui font circuler les déchets dans les fossés, je ne marche pas dans les fossés, mais malheureusement c'est là où il y en a le plus. Donc, je marchais quand même sur le bord des routes, des fois juste pour ramasser des déchets, alors que j'avais mon chemin à côté plus loin, mais oui, il y en a beaucoup plus que prévu que j'aurais pu ramasser, mais surtout tout seul, pour un homme seul, juste en traversant l'Europe, ouais, c'est pas facile.
Qu'est-ce qui vous a le plus manqué durant cette expédition?
Alors oui, c'est une question qu'on me pose maintenant que je suis de retour et finalement, bah rien en fait. Rien ne m'a manqué puisque ce que j'ai fait pendant 6 mois, c'est pas seulement une sortie, c'est un mode de vie qu'on se construit. Donc au début, on perd ses habitudes et on s'en crée de nouvelles. Et puis finalement, on accepte tout ce qui nous arrive. Ça devient notre mode de vie. Moi, quand je monte ma tente, c'est ma maison. Quand je trouve de l'eau, c'est mon robinet. Je trouve à manger. Voilà, c'est comme les gens, ils vont au supermarché. Moi, je trouve à manger, c'est pareil. Pour moi, c'est normal. On accepte tout ce qui nous arrive. Ça veut dire que pour moi, il n'y a pas d'autre option, en fait. Il n'y a rien qui n'existe. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de douche. Tout devient naturel et c'est compliqué aussi de s'en sortir maintenant que je suis de retour, de sortir de ce mode de vie-là et de s'en reconstruire un autre, d'aller vers la facilité finalement, puisque on n'est pas à plaindre dans notre pays, on a tout ce qu'il faut tout autour de nous. Et moi, je dois me contenter de tout ça. J'ai l'impression que c'est Noël finalement, donc c'est assez étrange.
On pourrait croire que vous êtes heureux de revenir à un mode de vie normal et finalement, vous avez comme, on le sent, une espèce de petit regret de tout ce que vous avez pu vivre dans, j'allais dire, presque le dénouement presque total.
Oui, c'est compliqué d'être dans la difficulté qu'on accepte et d'aller dans la facilité à accepter aussi. C'est un chamboulement, surtout que c'est un choc, c'est en quelques jours. Moi, j'ai passé 6 mois dehors. Et puis là, ça fait même pas une semaine que je suis de retour et je dois accepter. Donc, c'est très court comme période. C'est une transition qui devrait être plus longue et ça va demander du temps.
Déjà quelques sollicitations médiatiques ?
Ça va venir d'ici quelques jours. Des conférences qui vont venir au fur et à mesure. Et j'ai essayé de parler dans les écoles aussi, c'est important pour les déchets, pour l'éducation, donc toujours pour mettre en action et en avant le fait qu'on peut agir tous pour la planète.
Pourquoi pas un livre ?
Oui, aussi un livre qui va sortir d'ici l'année prochaine. Il n'est pas seulement sur l'expédition, il sera aussi sur la première. Et puis je vais mettre un bout de ma vie aussi avec un film qui doit sortir l'année prochaine.
Ça veut dire que quelqu'un est venu vous filmer pendant votre périple ?
Alors, en autonomie, donc jusqu'au bout. Hein, donc j'avais ma caméra, j'étais tout seul et je me filmais de temps en temps. Je faisais des plans, je parlais un peu, j'ai fait des vidéos sur les paysages. J'ai montré un peu tout ce que je traversais, comment j'expliquais aussi les déchets, comment je fais avec, comment je ramasse. J'essaie de faire des bilans, voilà, j'essaie de varier pour construire un peu mon film là-dessus.
Donc ce film, il sera visible où exactement ? C'est-à-dire que vous avez un distributeur en vue ?
Non, aucun. Mais j'ai de l'aide par des professionnels et le film sera gratuit. Donc c'est mon choix. Je veux qu'il soit gratuit, visible pour tout le monde. Il sera hébergé sur la plateforme YouTube, donc voilà, il sera disponible là-bas.
Quelques jours avant votre arrivée, le 27 septembre, Greta Thunberg a tenu ce discours très très fort à l'ONU. Elle s'en prenait directement aux dirigeants de la planète. D'ailleurs, vous avez évoqué Greta Thunberg sur votre compte Facebook.
Oui.
Ça, c'est un message que vous soutenez ?
Oui, c'est un message que je soutiens vraiment à fond. Donc elle a raison dans ce qu'elle dit, forcément, on doit tous agir. Les gens qu'elle vise, c'est les gens du gouvernement, etc. C'est vrai qu'ils peuvent faire des choses, mais ils ne le font pas. Mais derrière, on peut tous faire quelque chose. On ne peut pas compter à 100% sur la politique. On peut tous faire la même chose. On peut tous agir déjà à notre échelle. Donc déjà qu'on fasse quelque chose, ensuite on pourra se plaindre des autres. Mais c'est vrai que tout le monde doit participer pour la planète, puisqu'on vit tous dessus, tout simplement.
Et justement, vous, personnellement, quel message vous souhaitez véhiculer à l'issue de ce que vous venez d'accomplir ?
Moi, je veux juste que tout le monde soit concerné par la planète, qu'on la respecte, parce qu'on vit tous dessus, et qu'il faut surtout agir, parce que là, on est quand même dans l'urgence. Bientôt, il y aura plus de déchets dans les océans que de poissons. Sur la Terre, on pollue beaucoup avec plein de choses. Et tout le monde peut agir, parce que ça vient de nous. Les désastres, les catastrophes, ça vient principalement de l'homme. Donc les problèmes, ils vont avec des solutions et moi j'ai choisi mon camp tout simplement, je veux faire partie de la solution et tout le monde doit aller dans ce sens-là, donc ça nous concerne tous.
Vous avez accompli un défi hors norme, mais au quotidien, comment est-ce que justement vous agissez pour améliorer le monde, pour moins polluer ?
D'abord, c'est aussi une mission zéro déchet, on essaye de consommer intelligemment. J'achète plus de bouteilles plastiques, je n'achète plus de produits en plastique d'entretien, ou même pour la salle de bain, j'ai qu'un savon solide. Enfin, c'est des exemples, même si on n'est pas zéro déchet, qu'on fait déjà quelques ordures en moins, on va dire, c'est déjà une bonne chose. Alerter les gens qui ne sont pas du tout au courant de ça, que c'est important de réduire ses déchets, si tout le monde le fait, ça a un impact très positif sur la planète. Et on a beau les recycler, on a beau faire tout ce qu'on veut, c'est jamais vraiment 100% recyclé de tout ce qu'on a. On sait pas toujours où vont les déchets. Hein. Le pays, la France, les envoie des fois un peu n'importe où. Donc oui, c'est important déjà d'agir à son échelle, dans son quotidien. Et puis le plus important aussi, c'est de faire passer cette information. On a des enfants, on va leur apprendre, et même de ramasser avec eux juste pour que ce soit éducatif, pour que ce soit important, parce que les générations futures, c'est eux aussi qui vont vivre dans le monde qu'on va leur laisser aujourd'hui, donc ouais, c'est important. Ouais.
Vous êtes un homme de défi, parce qu'il y a effectivement ce message écologique, mais évidemment aussi l'exploit sportif. Si vous devez repartir demain pour une telle expédition, vous signez tout de suite ?
Oui, sans hésiter, oui. Bien sûr, ça demande de la préparation, mais bien sûr, il y en aura d'autres, et je continuerai. Tant que je vis, je continue.
Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose d'encore plus fort, même si c'est difficile à imaginer ?
Plus fort, oui. Oui, bien sûr, j'ai bien de plus grands projets. Ce sera différent de l'Europe, mais j'aime bien le froid, j'aime bien les grandes distances, des expéditions inédites, hein, des choses qui n'ont jamais été faites, c'est ce qui me passionne aussi, d'aller vers l'inconnu, voilà, vers des choses que... C'est parce que moi, si ça a déjà été fait, ça ne m'intéresse pas de marcher sur les pas des autres. Je veux vraiment marquer aussi les esprits. Et même pour moi, ça me permet de me découvrir, de savoir si j'en suis capable et... Si je rajoute une cause écologique avec ça, j'ai tout gagné.
Voilà, toujours en filigrane ce message écologique.
Voilà, exactement, pour la planète, pour le climat, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Sans la planète, on n'est rien tout simplement, donc c'est très important.
Est-ce qu'on peut dire que vous vous inscrivez un petit peu dans la démarche des Nicolas Hulot, Nicolas Vanier, etc.
Oui, après j'essaie de ne pas me mettre dans une catégorie, d'être dans les catégories des écolos, des éco-aventuriers, tout ça. Je respecte ce qu'ils font, bien sûr, ils vont dans mon sens. Mais je préfère me mettre au niveau de tout le monde. Voilà, je suis seulement humain. Ça veut dire que tout le monde est humain, tout le monde peut agir, tout le monde est concerné. Voilà, tout simplement.
Est-ce que aujourd'hui, après 6 mois d'expédition, vous êtes toujours le même Kevin Plessis que le 5 avril dernier ?
Ah non, plus du tout. Et c'est un changement dans la tête. On n'est plus le même. On pense différemment. On veut agir encore plus. Ce que je fais, c'est ma passion, et plus je la fais. Plus elle s'agrandit, plus j'ai envie de m'appliquer là-dedans, d'élargir mon domaine, et partager avec les gens, etc.
Votre vraie profession dans la vraie vie, on va dire, c'est chauffeur-livreur, déjà avec cette idée du voyage, du transport. Vous allez continuer cette profession ou alors vous allez beaucoup plus vous impliquer dans votre passion ?
Je vais continuer si j'en ai le besoin, mais pour l'instant, je mets de côté, j'ai déjà beaucoup de projets à faire. Et puis j'aimerais vivre de ma passion surtout, ça peut se faire avec les conférences, je vais essayer de développer ça et il y a moyen que j'arrête entre guillemets de faire mes anciens travaux puisque j'étais aussi déménageur. Et c'est ce qui aussi me permet de financer mes aventures puisque j'avais aucun sponsor, j'avais aucune équipe, je me finançais tout seul. Donc si des conférences ou autres peuvent m'aider, j'aurai plus de temps pour partir. Et même beaucoup plus rapidement puisque j'ai mis 8 mois à me préparer et en travaillant pour pouvoir partir 6 mois, donc voilà, ça demande beaucoup de temps.
Votre corps a été mis à rude épreuve, là aussi il va falloir beaucoup de temps pour retrouver un mode de vie normal, pour que vous retrouviez vos sensations. Est-ce que là vous vous faites aider pour ça justement, ou est-ce que vous vous dites non, la récupération va se faire petit à petit?
Je me fais aider tout simplement en allant visiter mes amis, mes proches. C'est vraiment ce qui aide, c'est la décompression, c'est comme ça qu'on retourne doucement dans la vie. Et puis j'ai surtout ma femme de côté qui m'aide énormément, elle m'a aidé pendant l'aventure, donc c'est vrai que c'est vraiment une aide vitale. Et voilà, ça fait plaisir, parce que se retrouver tout seul c'est vraiment compliqué. J'ai été assez souvent seul je pense maintenant, depuis 6 mois, donc je suis content d'être entouré quand même, c'est ça le plus important, la famille, les amis.
Voilà, votre famille, votre compagne, vous les avez retrouvés, ça c'est le plus grand bonheur.
Oui, c'est le plus grand bonheur, de retrouver des visages connus, parce que retrouver les gens qu'on connaît, c'est plein de souvenirs qui reviennent, ça nous aide à nous reconstruire, à nous remettre dans leur vie finalement, puisque on vit avec eux, on les voit toute notre vie, donc c'est très important la famille.
Pour conclure, un petit message peut-être aussi à tous les jeunes. Alors là, on parlait du message écologique, mais est-ce que peut-être croire en ses rêves, ça peut être aussi un message que vous souhaitiez véhiculer ?
Oui, aussi. Hein, j'ai essayé d'être très varié dans mes publications, sur les réseaux sociaux de tous les jours, de ne pas seulement parler des déchets, même si c'était majoritaire. Mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui rêvent, mais qui n'ouvrent pas les yeux finalement pour aller les réaliser. Et c'est important d'aller vivre ses rêves, on n'a qu'une vie. Et si on les fait pas aujourd'hui, on les fera pas demain, donc il faut y aller, il faut foncer. Et même avec les échecs, c'est comme ça qu'on progresse. Il n'y a pas que des réussites dans la vie, et il faut un peu échouer, il faut un peu se rater pour pouvoir toujours avancer, avancer, avancer et apprendre de ses erreurs.
Eh bien, c'est une très très belle conclusion. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement ?
Une bonne continuation et un bon courage pour mes prochaines aventures.
Oui, et à très bientôt, et je pense qu'on
Merci.
Va reparler de vous.
Merci beaucoup.
Alouette Mag, c'est terminé. Merci d'avoir écouté ce podcast. À très vite pour un nouveau numéro.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.